Vous nous proposez ce matin, Isabelle Duché, une rencontre sur l'unité.
Le cœur ne se divise pas, c'est le beau titre de l'ouvrage de l'invité de Radio Présence, le cardinal François Bustillo. Bonjour Éminence.
Bonjour.
Vous êtes franciscain et évêque d'Ajaccio, vous êtes notamment de passage à Lourdes pour prêcher une retraite pour les prêtres et aussi pour donner une conférence aux veilleurs de Bigorre intitulée « Un seul corps dans le Christ ». Je vous propose de faire un petit peu connaissance avec vous, Éminence, puisque vous avez de nombreux liens avec notre région. Vous avez grandi près d'Espelette, dans le Pays Basque. Après 5 ans de formation théologique au couvent franciscain de Padoue, vous avez poursuivi vos études à Toulouse, vous avez été ordonné diacre à Tarbes, puis prêtre à Pamplune, votre ville d'origine, c'était en 1994. Et vous avez exercé votre ministère à Narbonne, Carcassonne, à Lourdes. Et à cette occasion, vous avez été frappé par la déchristianisation de notre région. Quelle réflexion ce constat, Monseigneur, vous a-t-elle suscité ?
Écoutez, quand on voit des situations d'éloignement de la foi, de manque de passion, de beaucoup d'ignorance, parfois même d'hostilité, pour moi, c'est stimulant. Stimulant parce que cela signifie qu'il y a un terrain qui est presque vierge et qu'il faut contacter. Quand les personnes sont loin, quand les personnes ne connaissent pas ou quand les personnes sont hostiles, c'est un moment privilégié pour l'Église et pour les chrétiens pour établir une forme de dialogue constructive, une forme de dialogue créative aussi. Moi, je pense que je ne suis pas indifférent à des personnes qui sont loin de l'Église. Et il me semble que nous avons un bon message, l'Église catholique et l'Évangile est un message unique pour construire la paix, pour construire une vie pacifique, une vie pleine d'amour, où il y a le pardon, où il y a le don de soi, où on ne juge pas, où on ne condamne pas. Moi, je crois que le message de l'Évangile est d'actualité et je crois que c'est une bonne nouvelle. Alors, vous voyez, quand on voit un terrain qui est distant de l'Église, je pense que c'est un terrain intéressant pour trouver la manière de parler, de contacter, la manière aussi de dire un message positif et constructif en ayant du tact dans le contact.
Oh, en ayant du tact dans le contact. Votre ouvrage, coécrit avec le journaliste Nicolas Dia et Mgr Edgar Pena-Pera, qui est substitut de la secrétaire d'État, traite de l'unité de l'Église et vous avez ces mots. Nous sommes dans la logique des étiquettes. Un tel est tradit, tel autre est charismatique ou progressiste. Quel manque de maturité spirituelle, dites-vous. On est dans le monde de l'émotion, comme des gamins dans une cour de récréation. Des mots qui sont quand même assez durs à entendre, mais pourtant, Mgr François Bustillo, se défaire de ces étiquettes.
Écoutez, vous voyez, moi je pense que le danger pour nous, c'est que dans le monde et dans le milieu profane, avec beaucoup de facilité, on met des étiquettes. Voilà, il est à droite, il est de gauche, il est ici, il est là. Et donc, on a appliqué, malheureusement, ces critères du monde politique ou social à l'Église. Il y a le risque, alors, que nous ayons des sensibilités différentes. Chacun a son histoire, sa sensibilité, son parcours, ses rencontres dans la vie. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème.
Et c'est la richesse de l'Église aussi.
C'est une richesse. Mais nous, on met des étiquettes et quelque part, d'une manière un peu basique, on dit, voilà, ceux qui pensent comme moi, ils sont bien. Si moi, je suis tradit, ceux qui pensent comme moi, ceux qui sont comme moi, ils sont très, très bien. Et les autres sont en danger. Et moi, je pense qu'il faut dépasser une conception un peu primitive pour se dire, écoute, l'autre qui est en face de moi, peut-être qu'il a un autre parcours, il est différent, mais peut-être qu'il veut lui aussi être un être bon et faire de son mieux. Alors pourquoi dire, voilà, moi je suis bien, l'autre est mal? Parce qu'en fait, on tombe très facilement et d'une manière très injuste dans le jugement et la condamnation. Et pour moi, à la racine de tout ce problème de la division dans notre Église, au lieu de voir les richesses, comme vous disiez, on voit les dangers, le risque, la racine du problème, c'est qu'on transforme l'idéal évangélique, en idéologie. Et vous le savez, je le dis souvent dans le livre, l'idéologie n'a pas de cœur. Et moi, je crois que le problème, il est là. Voilà, quand on commence à dire « ceux qui sont comme moi sont bien, ceux qui ne sont pas comme moi sont dangereux », mais quelque part, déjà, on commence à se séparer et on commence à se diviser. Parce qu'on va avoir un langage dur, on va être intransigeant avec les autres, et quelque part, on rentre dans la logique tribale. Voilà, je protège J'aime ceux qui sont comme moi, j'attaque ceux qui ne sont pas comme moi. Ce n'est pas le top de la maturité évangélique proposée par Jésus, où il dit qu'ils soient un comme nous sommes un. Notre idéal, c'est l'unité. Ce n'est pas la division.
Oui, bien sûr. Et outre cette unité de l'Église, il y a cette unité du cœur, et évidemment, l'une ne va pas sans l'autre. Comment cultiver cette unité du cœur, Monseigneur?
C'est pour ça que je vous disais que moi, je pense qu'il y a un manque de maturité
Oui.
ecclésiale et surtout spirituelle.
Spirituel.
Tout commence par le cœur, l'évangile est clair. Alors, on ne va pas faire de la psychologie de base, mais Jésus le dit, tout commence par le cœur. Si le cœur est divisé, si nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes divisés, nous ne pouvons pas construire un monde uni, un monde aimable et aimant. Donc le travail intérieur commence par nous-mêmes. Si je médite l'évangile, si je reçois le sacrement, si je prie, etc., alors à ce moment-là, je vais nourrir ma vie intérieure. Ma vie intérieure va avoir une architecture solide. Je vais pouvoir apporter aux autres quelquefois de bon et de bien. Si par contre, à l'intérieur de moi-même, je suis vide, je suis creux, et il ne se passe rien, je me nourris de l'extériorité, de tout ce qui se passe à droite et à gauche, je suis tout le mouvement émotionnel, et à la fin, je vais pouvoir communiquer aux autres mon vide et mon manque de maturité. Donc, vous voyez, je pense que pour vivre l'unité de l'Église, il ne faut pas faire une unité, comment dirais-je, tactique, politique et stratégique. Mais il nous faut d'abord travailler la vie intérieure, commencer par nous-mêmes, ce qu'on appelle conversion et que nous connaissons par cœur. Mais la conversion, c'est comme être habité par l'amour de Dieu. Si nous sommes habités par l'amour de Dieu, ce qui va sortir de nous va être positif et va aider les autres à avancer d'une manière sereine. Si nous sommes crispés, divisé, tendu, violent en nous-mêmes, écoutez, ce qu'on va transmettre aux autres ne sera pas très constructif. Donc, vous voyez, il nous faut d'abord le travail intérieur pour ensuite, avec cohérence et avec maturité, pouvoir transmettre aux autres un patrimoine qui est serein et qui est bon.
Et sans doute aussi, comme le dit le pape François, demander cette grâce de l'unité pour que le Seigneur, je le cite, nous libère des tentations de la division, des combats qui nous opposent, des égoïsmes et des commérages.
Oui, absolument, parce que tout commence par là avec beaucoup de facilité. Vous voyez, aujourd'hui, on parle. Alors, à une époque, c'était drôle. Il y avait une certaine maturité, il y a une certaine éducation. Donc, on te demandait un avis, ben, tu donnais ton avis. Aujourd'hui, on ne demandait rien, on ne demandait pas un avis, et tout le monde donne son avis. Et souvent, on les donne sans avoir ni les éléments, ni les arguments. Alors, quel est le résultat? C'est qu'on va communiquer beaucoup nos émotions, nos réactions, nos déceptions, nos frustrations, mais tout cela ne construit pas une vie sereine. C'est pour ça que je crois qu'il est important de travailler le terrain de confiance. Un terrain de confiance, c'est un terrain où on est serein, où on est pacifié à l'intérieur, où on est habité par l'amour de Dieu. Autrement, on va communiquer l'attention, la violence et la peur. Parce que quand on va à la racine, et là aussi, de toutes nos tensions et nos divisions, il y a la peur. La peur de disparaître, la peur de mourir, la peur de ne pas avoir raison. Et alors, on devient dur, on se protège et on devient aussi intransigeant. Donc, on a un travail intéressant. Alors, moi, je le dis dans le livre, je vous le dis à vous aussi, à nos auditeurs, avec beaucoup de sérénité, même si avec un peu de passion. Mais le but, ne pas d'avoir peur les uns des autres. Le but de la vie, c'est de s'aimer. Et parfois, quand on oublie la finalité, c'est-à-dire l'amour, et pas l'amour romantique et sentimental, mais l'amour évangélique qui nous dit, bah, écoute, l'autre, il est là pour toi, c'est un cadeau, ce n'est pas un fardeau, tu dois l'aimer, non pas par devoir, par volontarisme ou par moralisme, mais parce que c'est l'idéal proposé par Jésus. Jésus a aimé jusqu'au bout. Il a donné sa vie et sous la croix, il a pardonné. Donc nous avons un idéal magnifique. Alors quand on voit notre société hyper divisée d'un point de vue politique, culturel, idéologique, moi je pense que l'Église a un mot à dire, l'Église a une âme, l'Église a un idéal, et elle peut proposer cet idéal pour apporter à la société de la sérénité et pour apporter à la société une vie plus pacifique.
Monseigneur François Bustillot, dans votre ouvrage Le cœur ne se divise pas, vous dites que l'Église a besoin de laïcs solides qui soient un soutien, une force et un encouragement. Comment acquérir justement cette solidité?
Je reviens toujours à la même question. Je pense
Oui.
qu'il faut partir du cœur et de la spiritualité. Vous voyez, aujourd'hui, quand on regarde notre société, quand on regarde l'Église, vous demandez aux gens que comment voyez-vous l'Église? Souvent, on va nous donner des éléments liés à l'organisation, à la logistique, à l'histoire, à la politique. Voilà, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Oui, mais l'Inquisition, les croisades, oui, mais les prêtres pédophiles. On va nous sortir souvent des questions concernant l'organisation et souvent les pages sombres. Alors, les pages sombres, évidemment, de l'histoire, il faut les assumer et il faut les corriger. Il faut aller de l'avant. Mais ce qu'on oublie, c'est que justement, il nous faut une solidité intérieure. Il faut commencer par la spiritualité. Si nous avons des laïcs et des prêtres qui ont une vie de prière, une vie spirituelle quand même. Quand on voit, moi ça m'étonne, ça me surprend, de voir des personnes qui vont en Amazonie, qui vont au Tibet ou en Inde pour une retraite spirituelle. Je dis quand même, dans notre tradition chrétienne, nous avons des spiritualités comme dans la tradition monastique, dans la tradition carmélitaine, dans la tradition franciscaine, dominicaine. Nous avons des belles traditions. Et nous avons des laïcs aussi et des religieux qui vivent cette spiritualité. Mais elle n'est pas assez affichée, elle n'est pas assez connue. Donc je crois qu'il est important, avec beaucoup de simplicité, sans aucune arrogance, sans aucun complexe non plus, de pouvoir afficher notre spiritualité. Non pas pour dire aux autres, moi je veux une spiritualité, imitez-moi, mais pour qu'ils voient la qualité de notre vie relationnelle, qu'ils puissent dire, tiens, cette personne, elle vit quelque chose. Et là, quelque chose en elle-même. Et alors, ça peut susciter la curiosité et une démarche aussi de vie spirituelle. C'est ce que je souhaite aussi pour nos catholiques, que nous puissions vivre quelque chose de profond, de dense, de beau et de vrai, pour que les gens puissent aller de l'avant et pour que nous puissions aider aussi à aller les personnes. Il n'y a pas que le curé et les moines qui ont le droit, c'est tous les baptisés. Et moi, je connais, et tout le monde connaît aussi des laïcs remarquables qui ont une belle spiritualité. Je pense que c'est une bénédiction pour l'Église.
Une bénédiction pour l'Église. Il y a aussi dans cette Église les prêtres et en Corse où vous êtes, Monseigneur François Bustillot, et aussi dans notre région qui est fortement rurale, nous sommes confrontés à la réalité d'un prêtre qui est dédié à de nombreuses paroisses. Quelles solutions préconisez-vous pour éviter leur épuisement et leur solitude?
Écoutez, avec beaucoup de réalisme, il faut constater que nous vivons une période de vaches maigres. Et donc, il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église où il y avait beaucoup de prêtres, d'autres moins de prêtres. Moi, je pense qu'effectivement, il faut protéger les prêtres pour qu'ils ne s'épuisent pas. Parce qu'à une époque, il y avait un prêtre par village. Donc, ils connaissaient tout des familles. Et donc, il y avait une facilité parce qu'il y avait une proximité. Aujourd'hui, un prêtre, il a une vingtaine de villages. Il doit faire des kilomètres et des kilomètres. Donc, ce n'est pas évident. Maintenant, je pense que dans des périodes de vaches maigres, il faut travailler un peu l'organisation pour ne pas s'épuiser, pour pouvoir apporter de la qualité. Vous imaginez si un prêtre va d'un village à l'autre, une messe, il finit la messe, aller dans la paix du Christ, il prend la voiture, il court pour aller dans un autre village.
Vous auriez un
À la
exemple
fin,
concret alors pour éviter cette situation de
ben écoutez,
précipitation et de kilomètres?
voilà, je pense qu'en fonction, moi je me rappelle que quand j'étais vicaire épiscopal à Narbonne, j'avais dit à un prêtre qui avait 42 villages et qui prenait la voiture, j'ai dit, il va se tuer en voiture, donc on perd un prêtre, il perd la santé, il perd la joie. Je lui avais dit, écoute, dans ta situation à toi, peut-être qu'il vaut mieux réduire les messes et faire des messes de qualité. Parce qu'à la fin, moi, je pense qu'on perd en qualité liturgique et de prédication. Si toi, tu finis, toi, prêtre, tu finis ta messe et tu cours parce que tu as une autre messe, à la fin, tu fais presque quelque chose d'automatique. Si par contre, tu fais un peu moins de messes, mais tu soignes la prédication, tu soignes la qualité de la liturgie, tu sors à la sortie de la messe et tu salues les paroissiens. On peut créer quand même une dynamique pastorale et une dynamique aussi familiale plus importante. Après, on est conscient que on pénalise toujours quelqu'un.
Et oui,
Parce
il
qu'on ne
faut
peut pas
accepter
tout
qu'il n'y
faire.
ait pas autant de messes qu'avant, en fait.
Mais c'est le propre de la pauvreté. C'est le propre d'une période de pauvreté. Et en même temps, ça, c'est un aspect lié à l'organisation. Le deuxième aspect, qui me semble important, c'est qu'il faut prier pour les vocations. Il faut oser demander à des jeunes de se donner. Si nous présentons l'Église, ce que je fais en Corse, aux jeunes, en disant, oh là là, on est peu nombreux, c'est dur, venez nous aider, ben écoutez,
Ça fait pas envie, c'est
on fait
sûr.
pitié.
Oui.
On fait pitié. Mais nous, on doit faire rêver. En disant, écoutez, les prêtres, ils sont présents au début de la vie des personnes, à la fin de la vie des personnes, et ils peuvent conseiller, ils sont présents pour accompagner, pour une qualité relationnelle, une qualité de conseil. Voilà, là, on apporte quelque chose à la société.
Donc voilà, il faut
Donc,
prier
d'un côté, il faut
pour les vocations
s'organiser,
et
absolument, et
s'organiser.
après, il faut prier pour les vocations, absolument.
Merci, merci beaucoup, Éminence, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle la conférence des veilleurs de Bigorre que vous donnez à Lourdes demain, mardi 16 janvier à 20h30, salle Saint-Pierre. Et bon séjour en France, pardon, dans notre région, Monseigneur François Bustillot.
Merci beaucoup, très belle journée.